Eh ouais, c'est Monsieur Daniel et c'est la Vassie. J'y suis avec François Ruffin. Vive les impôts ! Fiscalité, la fabrique de l'inégalité. Flight number two, arriving from
New York. Bon, Daniel, je pourrais aller à l'autre bout de la France hein, pour illustrer ce reportage. Je pourrais aller me balader à Marseille. Tiens, il ferait beau. Tandis que là, à Amiens, il fait toujours un temps gris. J'aurais pu aller me balader à Marseille, à Toulon, à Nice. Aller chercher le soleil au loin. Ça aurait coûté des frais de reportage à l'émission, à la radio. Déjà que chez nous aussi, il y a des restrictions de budget. Comme je pense que mon sujet, là, il peut s'illustrer n'importe où. Juste aller en reportage à côté de chez moi, dans un lycée. On est le 6 septembre et tu sais que dès la rentrée, il y a une grève des profs. Voilà, je suis à vélo, vers le lycée Montaigne, lycée Delambre, au-dessus de chez moi à Amiens.
Quel rapport, direz-vous, quel lien peut-il bien exister entre ces profs en grève dans un lycée d'Amiens et notre sujet du jour, à savoir les impôts et la fiscalité? Ben, c'est ce que nous allons essayer de démontrer. De démontrer en ce jour où le budget est en pourparlers. Vous avez entendu notre François Ruffin, le scrupule qu'il a ce qui concerne les dépenses de cette émission, les dépenses concernant Radio France. Et bien Radio France va nous fournir un excellent exemple de fiscalité. Oui, il y a les impôts, il y a les taxes, il y a les cotisations et puis il y a la redevance. La redevance. La redevance qui, chaque année, permet de financer l'audiovisuel public. Chacun des propriétaires d'un téléviseur est taxé à hauteur de 120 euros, à peu près 120 euros chaque année. Très bien. Le total de cette redevance rapporte 2 milliards d'euros avec lesquels on finance, vous le savez, la télévision, Arte, etc. Il y a un quart de ce budget qui revient à Radio France. C'est le budget annuel de Radio France. Environ 500 millions d'euros chacun. Qu'est-ce qu'on fait de ces 500 millions d'euros chacun que chacun d'entre vous, d'entre nous, payons? Avec ces 500 millions, eh bien, d'abord, il y a 4300, 4500 salariés dans cette noble maison. Donc, voilà une entreprise et des salaires, d'abord. Et puis ensuite, ces 500 millions d'euros permettent de réaliser 7 chaînes de radio, 7 chaînes de radio, 2 orchestres, des chœurs, une maîtrise, etc. Si bien que combien ça vous coûte tout ça, hein? Combien ça coûte de part à chacun d'entre nous? Eh bien, j'ai fait des calculs. Si on considère qu'on a environ au total, sur l'ensemble de nos radios, les 7 radios de Radio France, environ 13 millions d'auditeurs au total, eh bien, ça fait 30 euros à peu près par auditeur par an. Voilà ce que vous coûte ces 7 chaînes de radio qui émettent en permanence, qui produisent 24 heures de programmes et d'informations chaque jour. Alors vous me dites, ah mais attendez, 30 euros, c'est pour ceux qui écoutent, mais il y a ceux qui payent la redevance et qui n'écoutent pas. Très bien. Alors cela, ça leur coûte 38 euros en moyenne. Vous me suivez toujours? Par an, c'est-à-dire 3,15 euros par mois pour avoir tout ça, c'est-à-dire 10 centimes d'euros par jour, 10 centimes d'euros par jour, et pas, je parle que de ceux qui payent la redevance, vous me suivez toujours? C'est-à-dire que France Inter vous coûte 1 centime d'euros par jour. Et qu'il faudrait diviser 1 centime d'euros par jour par 24 émissions, hein, 24 tranches horaires, pour avoir pour avoir une idée de ce que coûte une émission comme la passe, si j'y suis. C'est-à-dire que ça vous coûte quasiment rien, et ça veut dire que nous ne valons à peu près rien du tout. Intéressant, non? Intéressant de voir comment fonctionne l'impôt. Eh bien, cet impôt n'est pas juste. Et non, il n'est pas juste, parce que tous ceux qui payent la redevance payent la même redevance, 120 euros par mois. Par an. Donc ça fait, bon, pour ceux qui gagnent normalement leur vie, bien leur vie, c'est pas beaucoup, 120 euros. Mais pour ceux qui font partie des 8 millions de Français dont nous parlions hier et qui sont en dessous du seuil de pauvreté, c'est une somme rondelette. Et là, on trouve une philosophie des impôts qui est celle soit d'un impôt progressif qui suit les revenus de chacun, ou bien un impôt imposé à tous de la même façon qui est un impôt injuste. C'est-à-dire que Madame Bettencourt paye la même redevance que quelqu'un qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Ça n'est pas juste. On voit bien tout de suite comment on peut génialement financer une entreprise géniale, bien sûr, et modeste, comme Radio France, mais on peut le faire d'une façon juste ou non. Voilà, c'est ça l'impôt. Et on va voir avec François Ruffin, aujourd'hui, comment est née cette impôt-phobie. Et on va en avoir un exemple tout de suite dans cette première chanson. C'est là-bas si j'y suis, c'est « Vive les impôts, fiscalité, la fabrique de l'inégalité ».
Salut mec, ça va? Tu vas bien? On se présente? Mais non, tu nous connais. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé, tes économies, tes sous, ton salaire, tes bénéfices, tes madeleines, tout ce qui traîne. Ce que t'as sué de ton front, on te le sucera jusqu'au front. On est là partout, même quand tu joues, pauvre idiot, on est là partout. Le loto, c'est nous. Le bingo, c'est nous. Le tiercé, le quarté, le quinté, c'est encore nous. Le quinté plus. On te reçus, faut que tu craches, faut que tu payes, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tout. T'as pensé à payer ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur le personnel, taxe d'apprentissage, taxe si t'es pas sage, taxe sur tout ce qui bouge, sur tes clopes et sur ton rouge, sur tes cachets d'aspirine, sur ta vodka et sur ton jean. Majoration relevée, vignette et timbres fiscaux, carte grise et assurance auto. Droit d'immatriculation, PV, crash, crash. Essence, péage, héritage, partage, mariage, concubinage. On est là à tous les étages.
Donc là, on est devant le lycée Delambre Montaigne.
Ouais.
Donc ça, c'est l'intersyndicale, alors là. Voilà. Alors, d'abord, bravo. Vous êtes à peine rentré, vous faites déjà grève, quoi.
Ouais, à peine rentré, déjà grève. Mais là, il s'agit de protester contre les suppressions de postes dans l'éducation nationale en général, mais plus particulièrement en Picardie.
Voilà, 16 000 suppressions de postes dans l'éducation nationale cette année, 34 000 suppressions de postes en 3 ans. Remplacement des titulaires par des stagiaires, tout ça s'inscrit dans la politique de dérégulation des services publics. Et on est devant ce lycée à Amiens avec ses enseignants qui manifestent et qui protestent. Quel lien entre quelqu'un comme Pierre Bérégovoy et le lycée Montaigne d'Amiens? Question.
Qu'est-ce qu'il y a eu comme suppression de poste alors?
Alors, en Picardie, entre 2005, entre la rentrée 2005 et la rentrée 2009, il y a eu exactement 1675 suppressions de postes, ce qui représente plus de 12% de suppressions de postes en 5 ans. 12% de suppressions de postes dans le second degré dans l'éducation nationale en Picardie en 5 ans.
On a dégraissé le mammouth ?
On a dégraissé le mammouth de 12% en Picardie, oui.
Je voudrais juste rajouter concrètement ce qui peut se passer pour nous dans les classes. Là, on vient d'apprendre, par exemple, il y a 2 jours, qu'on a un demi-poste de surveillant en moins au lycée. Et après, on nous reparle de la sécurité pour les élèves à l'intérieur du lycée, ce genre de choses.
Et mon compagnon qui bosse en SECPA, il se retrouve avec des classes de SECPA. Donc les SECPA, hein, c'est les enfants qui ne suivent pas le cursus, la classe, comment ils disent ça, comment vous dites, la classe classique. parce qu'ils ont des difficultés, etc. Donc ils ont des instits en face d'eux et puis ils apprennent un métier. Et ils sont montés là à 16, 17, 18, 19 cette année, alors que c'est des enfants pas faciles à gérer, quoi, souvent qui sont en rupture de scolarité, etc. Parce qu'il y a eu regroupement, Rimbaud, enfin voilà, encore suppression de postes, regroupement, rationalisation des moyens, quoi. Ça veut dire des conditions de travail toute l'année qui vont vraiment être plus compliquées. Pour les enfants comme pour les instits. Quoi.
Enfin, et avant, ils étaient à combien en secteur ?
Bah, ils étaient un peu moins, ils étaient 12, 13, ça a l'air de rien, mais 3-4 élèves difficiles, c'est compliqué à gérer. Quoi.
Attendez, j'ai une citation de Sarkozy qui dit, alors je ne sais pas faire les haussements d'épaule comme lui, hein, vous me pardonnerez, « Nous avons diminué le poste de fonctionnaires dans notre pays comme jamais. Nous avons supprimé 100 000 postes de fonctionnaires en 3 ans. Dans le budget 2011, nous en supprimerons encore 34 000. La France ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. » Et la phrase d'après est dit, « Augmenter les impôts, je m'y refuse totalement. » Est-ce que vous voyez un lien entre ce raisonnement et votre situation d'enseignant ?
Je réfléchis, ça.
Le lien, je le vois bien, c'est pas compliqué, les impôts, c'est ce qui paye effectivement les fonctionnaires. Les fonctionnaires, c'est les infirmières, c'est les profs, c'est les gardiens de prison, c'est tous les fonctionnaires donc, qui ont une utilité. Donc à partir du moment où on n'augmente pas les impôts ou qu'on les baisse, forcément, on a moins de fonctionnaires. Donc ça veut dire que c'est un choix de société. Hein, là, dans cette société-là, c'est ceux qui ont de l'argent, bah, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et puis ceux qui n'ont pas d'argent, bah, ils font très peu. C'est pas plus compliqué. Enfin, moi, je le vois comme ça.
Vous êtes prof d'éco.
Ouais.
Ouais.
Oui.
Et alors, est-ce que vous dites que c'est la faute à Bérégovoy ?
Bérégovoy, c'est vieux, ça. Hein. Qu'est-ce que vous avez contre Bérégovoy ?
Non, parce que Bérégovoy est le premier, dans les années 80, à avoir diminué les impôts. Il a fait passer l'impôt sur les sociétés qui était, je crois, de 50% à 45%. Ensuite, il est revenu au pouvoir et il l'a fait passer à 33%, l'impôt sur les sociétés. La course à la diminution des impôts, elle est engagée dès le milieu des années 80.
Et donc, c'est les socialistes qui l'ont entamé, ouais, d'accord.
Et donc là, qu'est-ce que vous faites cet après-midi ?
On va manifester, on fera 10 000.
Bon bah écoutez, je vais vous laisser aller faire monter la grève générale et les barricades à partir de 14h30 devant le rectorat, quoi. Et puis moi je vais aller faire les liens donc entre Balladur, Bérégovoy, Fabius,
Bettencourt,
Sarkozy, Woerth et ainsi de suite, et les suppressions de postes au lycée Montaigne de Lamont.
J'ai pris des engagements au nom de la France avec le Premier ministre et le gouvernement pour réduire les déficits.
Nicolas Sarkozy, 12 juillet 2010.
Tenez-vous bien, cela fait 40 ans que la France présente un budget en déficit. Eh bien, c'est plus possible. Mais la première étape, c'est 6% en 2011.
En 2011. Sur 3 ans, ça représente 100 milliards d'euros. Où est-ce qu'on trouve aujourd'hui 100 milliards d'euros à économiser sur le budget de l'État ?
Alors, premièrement, nous avons diminué le nombre de postes de fonctionnaires dans notre pays comme jamais. Nous avons supprimé 100 000 postes de fonctionnaires en 3 ans. Dans le budget 2011, nous en supprimerons encore, M. Barouin a donné les chiffres, 34 000. Il n'y a pas d'autre choix, David Pujadas.
Mais la plupart des économistes, et beaucoup aussi dans votre propre camp, disent si on veut atteindre ces objectifs, on ne peut pas le faire sans augmenter les impôts.
Eh bien, je m'y refuse totalement.
Donc là, Daniel, on est dans le hall de l'Assemblée nationale, devant les portails électriques. On dépose des sacs pour voir si on n'a pas mis le poignard pour assassiner notre élu préféré. Et on vient ici parce que c'est quand même ici, à l'Assemblée nationale, que se votent les budgets, c'est-à-dire les dépenses et les recettes. Les dépenses d'éducation, de justice, de santé, d'armée. Et les recettes, les impôts, c'est ici que ça se vote tous les ans. Donc on va aller rencontrer une série de députés. Puisque c'est ici quand même que se décide s'il y aura plus ou moins d'infirmières au CHU d'Amiens, plus ou moins de profs au lycée Montaigne de Lambre, toujours à Amiens, mais aussi à Rennes, à Nantes, à Lille, à Marseille, à Toulon, à Nice. C'est en partie ici que ça se décide. Il y a un lien très direct, mais invisible, entre ici l'Assemblée nationale, l'entrée de l'Assemblée nationale, et le lycée de Lambre-Montaigne à Amiens. Monsieur Gilles Carrez, on est dans votre bureau, à la commission des finances. Vous êtes député UMP, vous êtes rapporteur général de la commission des finances, et ça, pas depuis hier, mais depuis 2002.
Et au printemps dernier, enfin plutôt au début de l'été, vous avez rendu un rapport qui pointait notamment toutes les baisses d'impôts intervenues depuis une dizaine d'années.
Exactement. Et moi, j'observe, en ayant étudié de façon très précise ce qui s'est passé depuis 10 ans, et donc je montre que, et sous le gouvernement Jospin, donc socialiste, à partir de 2000, et depuis 2002, si on prend toute cette période, les recettes du budget de l'État ont diminué de 100 milliards d'euros. Ça se répartit 30 à 40 milliards dans la période 2000-2002, et puis le reste depuis. Et je pose la question, est-ce qu'en face, les dépenses ont-elles diminué également de 100 milliards? Or, à l'évidence, non. Et donc, ces baisses d'impôts faites depuis 10 ans, elles ont été financées, en réalité, par le déficit.
Donc, finalement, le déficit qu'on a aujourd'hui, c'est pour l'essentiel un déficit de recettes, un déficit d'impôts, des impôts qu'on aurait baissé de l'équivalent de 100 milliards d'euros par an. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'il y a dans ces 100 milliards d'euros? C'est quoi, par exemple?
Il y a tout. Je vais prendre, par exemple, les baisses d'impôts de 2000, les baisses Fabius. Parce qu'elles ont été considérables, plus de 15 milliards d'euros. Il y a eu baisse d'un point de la TVA, taux général. Il y a eu baisse de l'impôt sur le revenu. Il y a eu suppression d'une partie de la taxe d'habitation qui était payée aux régions. Suppression de la part salaire, c'est-à-dire un bon tiers de la taxe professionnelle, déjà à cette époque. Vous additionnez le tout, 15 milliards d'euros qui ont été décidés pratiquement en quelques jours au printemps 2000.
Pour un bon équilibre, là vous avez cité Fabius. Quand on regarde, j'ai lu votre étude, il y a un graphique et notamment il y a deux moments où on voit les impacts des baisses d'impôts sur le budget général de l'État. Il y a deux moments, donc il y a 2000-2001 et le deuxième moment fort, c'est 2006-2007.
En 2007, évidemment, il y a eu la loi TEPA. La loi TEPA avec des exonérations importantes pour les heures supplémentaires, mais il fallait bien sortir des 35 heures, donc ça coûte. Exonération de l'impôt sur le revenu, exonération de CSG au titre des heures supplémentaires. Il y a eu la baisse des droits de succession. Bon, ça s'est fait tout de suite 800 millions d'euros. Et puis, il y a eu la possibilité d'investir son ISF dans les PME.
Son impôt sur la fortune. Voilà.
Et puis, il y a eu le renforcement du bouclier fiscal, parce que contrairement à ce qu'on croit, le bouclier fiscal n'a pas été créé en 2007, il a été créé dans le cadre de la réforme de l'impôt sur le revenu sous le gouvernement Villepin. Mais il a été renforcé. Et donc, on voit bien dans mon rapport que là, à nouveau, on a des baisses d'impôts.
Alors, il y a deux solutions. Soit on augmente les impôts, soit on baisse les dépenses. Là, je lisais, c'est les Échos d'aujourd'hui. Il y a une interview de l'entrepreneur milliardaire belge Albert Frère à l'intérieur. Et il parle de la dette de la France, de la dette des États. Il dit « La dette des États est la somme de 30 ans de laxisme. Il n'y a pas d'autre réponse qu'une réduction des dépenses publiques. » Donc voilà, il ne parle pas d'impôts. Albert Frère, il dit « Il n'y a pas d'autre solution qu'une réduction des dépenses publiques. » Le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, c'est une économie de 500 millions d'euros par an. Si jamais il s'agissait de combler les 60, 80, 100 milliards de déficits structurels par an, ça veut dire que c'est une suppression de fonctionnaires par million, là, qu'il faudrait.
Dire que la seule issue, c'est de diminuer les dépenses publiques, c'est projeter un modèle de société qui n'est pas forcément celui dont nous voulons. Quand on est milliardaire, c'est sûr qu'on n'a pas besoin d'aller au bureau d'aide sociale de la mairie pour avoir un coup de main pour payer sa facture d'électricité.
Ou sa facture de gaz, puisqu'il est actionnaire de GDF Suez, dont les dividendes ont largement augmenté, comme les frais de facture.
La société, pour fonctionner de façon harmonieuse, elle a besoin de charges communes, de dépenses. Et c'est comme ça depuis qu'il y a des sociétés organisées. Et face à ces charges communes qui font le bien-être de chacun, la sécurité, aujourd'hui la santé, face à ces charges, l'éducation, la justice, face à ces charges, il faut des recettes. Et dire que le problème des finances publiques ne peut se traiter qu'en réduction de dépenses, je conteste complètement cette analyse. Complètement. Il y a des modèles de société, comme par exemple en Europe, où la dépense publique est très importante. parce qu'on estime que la collectivité publique doit prendre en charge beaucoup de choses. Mais faire comme Albert Frère l'a diminué à 35 ou 40, c'est un autre modèle de société dont nous ne voulons pas.
Voilà, Gilles Carré, UMP, rapporteur à la Commission des Finances et rapporteur de ce texte qui a éclairé quand même de façon assez forte la question du déficit du budget de l'État. Puisque ces 100 milliards, vous avez compris, sont dus à ces baisses d'impôts qui ne sont pas le monopole exclusif de la droite. C'est un homme de droite qui nous parlait, UMP. Voici un homme de gauche avec son point de vue à lui bien particulier, Henri Emmanuelli.
Monsieur Henri Emmanuelli, on est dans votre bureau. Pour parler des impôts, on n'est pas venu vous voir par hasard puisque vous avez été ministre chargé du budget, ou plus exactement secrétaire d'État chargé du budget entre 1983 et 1986, président de la commission des finances régulièrement en 91, 92, 97, 98, entre 2000 et 2002, donc c'est pas par hasard qu'on vient vous voir pour parler des impôts. Bêtement, moi le raisonnement, si je viens parler des impôts, c'est que depuis des années, on entend qu'il y a des déficits, qu'il faut réduire les dépenses, donc les postes d'infirmiers, d'enseignants, qu'il faut supprimer 34 000 emplois de fonctionnaires cette année, ainsi de suite. Et on se dit, il y a deux solutions dans ce cas-là. Soit c'est on diminue les dépenses, c'est ce qu'on essaye de faire en ce moment, soit on augmente les recettes, donc on augmente les impôts.
Alors si on fait un peu de rétrospective, j'irai jusqu'à l'année 2000. On est en 2010, donc sur les 10 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays? Il s'est passé en réalité qu'entre la gauche et la droite, parce que c'est la gauche qui avait commencé, on a réduit très sérieusement les recettes. Les recettes. On a supprimé à peu près 300 milliards de francs. Et vous constaterez que ça correspondait au déficit chronique que le budget enregistrait en période normale depuis 2002 jusqu'à la crise, disons. Parce qu'on était déjà en déficit de 48, 50 milliards d'euros. On ne dit jamais aux Français, oui, il y a un déficit budgétaire, parce que en réalité, on a supprimé 300 milliards de francs. Alors, rien que la gauche, souvenez-vous, la vignette disparue, 12 milliards de francs. La base salaire dans la taxe professionnelle, 75 milliards de francs à l'époque. C'est-à-dire, rien qu'entre ces deux mesures, on est quasiment à 100 milliards. Après, on a touché à l'impôt sur revenu. Souvenez-vous, c'est l'époque où, y compris des socialistes, font des tribunes libres pour dire faut baisser les impôts ou on va être battu aux élections, quoi. On les a baissés, vous avez vu comment on a été élus, quoi.
Là, j'ai une citation de Laurent Fabius, dans Le Monde, le 1er septembre 2000. Eh oui. « Je présenterai un plan d'allègement et de réforme des impôts qui sera le plus ample des 50 dernières années. »
Voilà. C'est de ça que je parlais. Et de quelques autres. Parce qu'il n'était pas tout seul. Hein. C'était la mode. Tony Blair, les socialistes espagnols, tout le monde était, n'est-ce pas? Puis la droite est arrivée et elle a continué massivement. Donc voilà ce qui s'est passé. C'est pas un mystère, c'est pas un mystigri. Bon, alors on va me dire, oui, mais il n'y avait qu'à supprimer les dépenses. Aujourd'hui, on est dans une situation loufoque. Je vais prendre là aussi un exemple qui parle. Monsieur Woerth est venu l'année dernière, il s'est vanté à la tribune de l'Assemblée nationale en présentant le budget, il nous a dit, voilà, entre le budget 2008, le budget 2009 et le budget 2010, j'aurais supprimé 100 000 emplois dans la fonction publique, dont 50 000 dans l'éducation nationale, 10 000 chez les policiers, ce qu'il oublie de dire, etc. Et puis, c'est un exploit parce que ça va nous permettre d'économiser 500 millions d'euros. Moi, je suis monté à la tribune derrière, je lui ai dit, écoutez, j'ai l'impression de rêver là. Parce que vous nous expliquez que vous avez supprimé 100 000 emplois dans la fonction publique pour faire 500 millions d'euros d'économie, et puis vous avez dépensé 3 milliards d'euros pour la TVA des restaurateurs. Donc le bilan, c'est moins 2,5 milliards d'euros. Donc non seulement vous avez aggravé le chômage, mais en plus vous nous avez collé des déficits supplémentaires. Et vous nous dites que c'est un exploit. J'ai essayé d'expliquer ça dans la presse un peu partout, ça ne ressort pas. C'est absent. Bon, rien que cet exemple-là. L'amendement Copé, c'était quoi l'amendement Copé en 2007? C'était un amendement qui constituait à dire les grandes sociétés qui vendront des filiales, elles ne paieront plus de ce qu'on appelle les plus-values, c'est-à-dire d'impôts sur les ventes, sur la vente. Il nous avait dit que ça coûterait 1,5 milliard d'euros. Ça a coûté 20 milliards d'euros en 2 ans.
Donc 10 milliards d'euros par an.
Ah ben oui, à peu près 10 milliards d'euros en moyenne par an. Les bénéficiaires ont été les sociétés du CAC 40 à plus de 80%. Donc quand on nous dit après, il n'y a pas d'argent, on ne sait pas comment faire. Mais si, on sait comment faire.
Là, j'ai fait, parce que 10 milliards d'euros, vous savez, pour moi, c'est 10 et puis il y a 9 zéros derrière, mais oui. Ça ne représente pas grand-chose.
Oui, mais c'est les finances publiques.
Ouais. Ça. J'ai converti en poste d'infirmière à chaque fois.
Oui.
10 milliards d'euros en poste d'infirmière, vous savez ?
C'est plus de 500 000, puisque 100 000 emplois dans la fonction publique, c'est 500 millions d'euros par an. Alors 10 milliards d'euros...
Moi, j'ai calculé 300 000 à peu près.
Oh oui, plus que ça, à mon avis. Mais c'est l'amendement coupé à lui tout seul, oui, il coûte plus cher que 300 000 infirmières, oui.
C'est passé discrètement ?
Absolument.
C'est technique, enfin, on n'y comprend
discrètement,
rien.
Discrètement, c'est là qu'on a un vrai problème, vous et nous, si j'ose dire. Hein. C'est pas passé discrètement, il n'y a pas eu un budget, il n'y a pas eu un collectif où on n'a pas mis ça sur la table. Mais, comme plus personne ne suit les travaux à l'Assemblée nationale, eh ben, c'est passé à l'as, quoi.
Enfin, l'équivalent de 300 000 postes d'infirmières supprimés.
Et encore, à mon avis, je pense que vous êtes en dessous.
Vincent Benassal, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger.
Je vous en prie.
Est-ce que je pourrais avoir le bureau de monsieur Copé, s'il vous plaît, Jean-François Copé?
Oui.
Monsieur Copé, bonjour.
Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je fais un sujet sur la fiscalité.
Mmh.
Et j'aurais voulu poser une question à monsieur Copé.
Alors, je vais surtout vous donner les coordonnées de son service de presse.
Ok, je vous remercie.
Je vous en prie, monsieur.
Au revoir.
Service presse UMP.
Oui, bon, je suis bien au service de presse de monsieur Copé.
Oui, tout à fait.
Oui. J'aurais bien voulu poser une question ou par votre biais à monsieur Copé, avoir une réponse.
Alors, pour ça, il faut envoyer un mail à son attaché de presse.
Ok, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Au revoir. Bon, ben, j'écris aussitôt le mail à monsieur Copé. Voilà, comment j'ai écrit. Dans la case objet, j'ai mis des regrets, point d'interrogation. Reporter à France Inter préparant une émission sur les impôts, je fais suite à notre conversation téléphonique. Au cours de mes brèves recherches, j'ai découvert que 1. Monsieur Copé, alors ministre du Budget, avait coproduit une niche fiscale sur les pleuvalisations. 2. Cette dépense fiscale devait ne coûter que 1,5 milliard d'euros par an. Elle revient en fait autour de 10 milliards d'euros. 3. Monsieur Copé a souhaité imposer fiscalement les indemnités versées lors des accidents du travail. Ouais, parce que Jean-François Copé a décidé qu'il fallait imposer fiscalement les accidents du travail. Et l'élimination de cette niche, puisque c'est lui qui appelait ça une niche, hein, c'est un privilège de pas voir ces indemnités d'accident du travail défiscalisées. Là, c'est une niche et c'est un privilège. L'élimination de cette niche devait économiser 150 millions d'euros par an. Donc, on a bien dit 10 milliards pour les plus-values de cession qu'on offre aux entreprises, 150 millions qu'on reprend aux salariés. Donc, je pose la question ensuite. D'un côté, donc, on épargne 150 millions sur les salariés victimes d'accidents du travail. De l'autre côté, on dépense 10 milliards, donc 60 fois plus. Hein, 60, on donne 60 fois plus aux entreprises qu'on ne reprend aux salariés. N'y a-t-il pas là une injustice évidente? Deux poids, deux mesures. Monsieur Copé regrette-t-il ses choix? Entre parenthèses, tout le monde peut se tromper et il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Vous remercie d'avance pour votre réponse. François Ruffin. Bon, et je donne mon numéro de portable. Donc, je pense que le service de presse de monsieur Copé va nous répondre rapidement pour nous dire si oui ou non c'est une injustice de donner 10 milliards aux entreprises tandis qu'on reprend 150 millions aux salariés. Donc je vais attendre ce coup de fil du service de presse de Jean-François Copé. Prenne mon portable en attendant qu'il sonne. Mais alors, vous avez protesté, monsieur Henri Emmanuelli, parce que vous ne payez pas assez d'impôts.
Et non. J'ai protesté parce que, avec le système des niches fiscales, il y a beaucoup de cadres moyens qui ne paient plus d'impôts sur le revenu. Hein, sur le revenu. Aujourd'hui, si vous avez une femme de ménage bien payée, d'ailleurs, on l'a payée normalement, ce qui est mon cas, quand vous faites votre feuille de paye, vous apercevez que vous n'avez plus d'impôt sur le revenu. Donc moi, je vois arriver une feuille d'impôt où j'ai normalement 8000 euros d'impôt sur le revenu. Et puis grâce aux niches fiscales, il y a zéro. Alors on me dit, c'est parce que vous êtes député. Mais non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le fait que je sois député. N'importe quel cadre français qui est dans la même situation, il a les mêmes avantages. Et donc, on arrive à cette situation aberrante où moi, je n'ai pas d'impôt sur le revenu, mais où les gens qui travaillent pour moi, eux, en payent.
Ah, vous montrez le bureau d'à côté. Le bureau d'à côté, il y a votre chauffeur.
Il y a la secrétaire, il y a le chauffeur, qui est un chauffeur de l'Assemblée nationale, qui paie des impôts, lui, la secrétaire, qui paie des impôts, qui a deux enfants. Et moi, j'en paie pas parce que, quand on a les moyens dans ce pays de se payer des services, et qu'une partie de ces services est déductible de l'impôt sur le revenu, ben en fait, c'est l'État qui vous fait cadeau de la moitié, quoi. Voilà. Et ça, c'est aberrant.
Là où il y a une nouvelle injustice, c'est que les sociétés du CAC 40, sur l'impôt sur les sociétés, sont à peu près trois fois moins taxées que les PME.
Oui.
Elles payent l'impôt sur les sociétés à hauteur de 8% pour les sociétés du CAC 40. Oui. Les PME, qui déjà sont souvent des sous-traitants des grosses boîtes...
Parce que les grandes entreprises, aujourd'hui, à l'intérieur du marché unique européen, ou grâce à ce qu'on appelle les centres financiers offshore, c'est-à-dire les paradis fiscaux, pratique ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce mot compliqué ? Ça veut dire que quand on a les moyens de se payer des gens très pointus, très costauds, qui vous expliquent comment il faut faire pour payer le moins possible d'impôts, ben vous y arrivez, quoi.
C'est-à-dire en allant placer...
Ils vont placer la holding en Hollande, parce qu'en Hollande, il n'y a pas d'impôt sur les holdings. Donc on fera remonter tous les bénéfices sur la holding. Et on se débrouillera pour que ce qui est gagné en France soit remonté comptablement sur la holding en Hollande. Et à ce moment-là, paye pas d'impôts, quoi.
Ce que le pont Blaisinger peut pas faire, s'il monte sa holding en Hollande, ça va être compliqué pour lui.
Bien sûr que non, il sait pas faire, il peut pas faire, il a pas les moyens, donc il le fera pas. Pas plus que le patron de PME qui a autre chose à faire et qui n'a pas les moyens de se payer un cabinet comptable.
Et lui, il payera 24% d'impôt sur les sociétés.
Voilà. C'est pareil pour l'impôt sur le revenu, là. C'est-à-dire les personnes physiques. Si vous savez faire, si vous avez les bons conseils, vous paierez beaucoup moins que celui qui n'est pas informé, quoi.
C'est comme s'il y avait un chantage permanent qui s'exerçait, à savoir, si vous nous embêtez, bon, on a tout...
ailleurs. Et c'est effectivement le cas. Une société peut réunir son conseil d'administration et décider en 10 minutes qu'elle change son siège social de place. Il était à Paris, elle le met à Amsterdam.
Bienvenue au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État. Ne quittez pas, nous allons vous répondre dans un instant.
Allô ?
Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je suis reporter pour France Inter.
Oui.
Et j'ai découvert dans la presse, dans Le Monde, qu'en matière d'impôts sur les sociétés, les entreprises du CAC 40 étaient taxées à hauteur de 8%, tandis que les PME l'étaient à hauteur de 30%, c'est-à-dire quasiment 4 fois plus. Et je trouvais ça pas très juste. Et je voulais savoir ce qu'en pensait le ministre de l'Industrie, qui doit être un peu le ministre à la fois des industries du CAC 40 et des PME, quoi.
Les PME, c'est plutôt Monsieur Novelli.
Ah, c'est Monsieur Novelli.
Ah, les PME, c'est Monsieur Novelli.
D'accord. Quel est le numéro, alors ?
Je ne l'ai pas dans l'organigramme, mais je vais vous la transférer, si vous voulez.
Très bien, très bien.
Ne quittez pas, monsieur.
Merci.
Je vous en prie. Allô, oui, bonjour.
Alors, je suis François Ruffin, je travaille pour France Inter. J'ai découvert que, concernant l'impôt sur les sociétés, les entreprises du CAC 40 étaient taxées à hauteur de 8% sur leurs bénéfices, tandis que les PME l'étaient à hauteur de 30%, c'est-à-dire 4 fois plus, presque 4 fois plus. Je trouve que c'est pas très juste. Et je voulais savoir ce qu'en pensait monsieur Novelli.
D'accord. Je vais prendre vos coordonnées et on vous rappellera, monsieur.
Je vous remercie bien.
Donc, vous faites un reportage donc sur les taxes.
Sur les impôts en général.
Les impôts en général, d'accord.
Et donc, j'ai vu qu'il y avait une injustice à l'égard des PME, des artisans et on va dire du favoritisme pour les grosses entreprises du CAC 40, quoi. Et donc, je voulais savoir ce qu'en pensait monsieur Novelli, quoi.
D'accord. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Et je voudrais qu'on adresse des excuses à tous ces standardistes qui sont harcelés par ce reporter entêté qu'est François Ruffin et qu'on retrouve avec Henri Emmanuel.
Vous étiez député dans les années 70 ?
Non, 78, moi, plus les années 80. Oui.
Parce que quand on regarde, j'ai regardé sur l'INA les débats sur l'impôt sur les successions, enfin les idées d'impôt sur la fortune qui existent à ce moment-là. Ce qui est marrant, c'est qu'on a la gauche qui réclame ces impôts-là. Et une fraction de la droite qui embête le gouvernement Barre. Il y a un monsieur qui s'appelle Didier Bariani qui va devenir un responsable de l'UDF, qui n'est pas un mec particulièrement progressiste. Un mec comme Michel Poniatowski, qui était ministre de l'Intérieur, pareil, et qui se positionne, eux, à ce moment-là, pour davantage d'impôts, notamment sur les successions, éventuellement sur la fortune. C'est-à-dire qu'on a l'impression que dans les années 70, le vent souffle dans le dos des progressistes.
Les premiers impôts sur les plus-values, C'est quoi une plus-value? C'est vous achetez un truc 100, vous le revendez après, 10 ans après, vous le revendez 1000, quoi. C'est ce que Mitterrand appelait gagnant de l'argent en dormant. C'est vrai pour les terrains, c'est vrai pour... Le premier qui met des impôts sur les plus-values, c'est Giscard d'Estaing, en 76. Effectivement, à l'époque, il cherche de l'argent. Pourquoi? Parce que le chômage monte et que le déficit des finances publiques devient fort. Et donc, il cherche des ressources et ils sont plutôt, comme il n'y a quasiment pas d'impôts sur le patrimoine, il se dit, là, il y a de la marge.
Et on a l'impression que le vent, le souffle, va s'inverser dans les années 80. Là, bah avec Reagan, avec Thatcher et ainsi de suite, le souffle, il va aller contre les impôts directs, contre les impôts progressifs, contre les progressistes, quoi. Parce qu'en 85, alors que vous êtes ministre du budget, se produit, en tout cas sur l'impôt sur les sociétés, la première baisse de l'impôt sur les sociétés. Avec Pierre-Pierre Rigovoy, on passe de 50% à 45% d'impôt sur les sociétés.
Oui, parce qu'on est dans une harmonisation européenne. On a un marché unique. Donc si vous dites en France, vous vous faites payer 50 et qu'en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg, en Espagne, et partout c'est 30, ben les gens ils vont aller faire leurs investissements là où c'est le moins cher. Ce qu'on a appelé la concurrence fiscale. Vous avez des pays européens, par exemple, sur l'épargne, ils baissent. Notre épargne fout le camp au Luxembourg. Aujourd'hui, les grands gagnants, c'est les actionnaires. Regardez les bénéfices du CAC 40 encore cette année, quoi, hein. Ça recommence, quoi. C'est les milliards d'euros. On est à 40 et quelques milliards d'euros pour le premier semestre. Hein.
Moralité, mieux vaut actionnaire que prolétaire. On continue demain. Vous vous en doutez, on n'a pas fini avec cette histoire d'impôts et de fiscalité juste ou pas. C'était un reportage de François Ruffin. Merci à Gilles Carrez, merci à Henri Emmanueli, merci à Didier, Corinne et au prof du lycée Montaigne à Amiens. Et puis notez le nouveau livre de Vincent Drezet et de Lee Mangkok, Il faut faire payer les riches, qui paraîtra le 21 octobre 2010 aux éditions du Seuil. C'est un très bon titre, Il faut faire payer les riches. Et puis, par ailleurs, l'enregistrement autour du monde diplomatique, ce soir, c'est complet, mais vous pourrez écouter notre émission mensuelle avec le monde diplomatique lundi prochain sur France Inter. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous retrouverez aussi cette émission sur là-bas.org, là-bas.org avec des vidéos de nos récents exploits. À la technique aujourd'hui, Patrick Henry et Florent Layani, Koye Nguyen et Franck Adhérère ont réalisé cette émission modeste géniale, assistée d'Agnès Lebot et Marina Touillès. Quant à elle, attend vos messages au répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.
Bonjour, Emmanuel de Tabac Info Service.
Oui, bonjour, je vous appelle parce que je fume près d'un paquet par jour et je me demandais s'il y avait des risques.